Commençons par cette question. Un président devrait-il dire ça en pleine crise des gilets jaunes à une manifestante hospitalisée? Dans une interview accordée à Nice matin, Emmanuel Macron a souhaité un prompt rétablissement et peut-être une forme de sagesse à cette militante d'attaque, 73 ans, grièvement blessée à Nice lors d'une manifestation interdite que les forces de l'ordre cherchaient à disperser. Quand on est fragile, qu'on peut se faire bousculer, on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits et on ne se met pas dans des situations comme celle-ci. Voilà pour la citation du président. Nathalie Arthaud, les propos du président, est-ce que vous les percevez comme une provocation ?
C'est du Macron, j'ai envie de dire, hein. C'est plus fort que lui, voilà. Mais c'est vrai que là, avec cette manifestante qui est quand même grièvement blessée, moi je trouve ça honteux, voilà, je trouve ça honteux. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? C'est que quand on a un certain âge, hein, eh bien, on reste à la maison, hein, y compris quand sa retraite est amputée. Et puis on dit merci aussi, c'est ça. Moi, je l'avais vu, y compris avant l'incident, puisque effectivement, elle manifestait avec son drapeau et elle exprimait justement son opposition à cette interdiction, hein, de se rassembler sur cette place Garibaldi, mais de façon extrêmement pacifique, très digne et quand même, parce qu'il faut rappeler aussi pourquoi cette interdiction avait-elle été mise en place à Nice.
Pas parce qu'il y a eu des débordements, il y a eu des
violences. Non, la réalité, c'est parce que le sieur Macron recevait l'empereur de Chine et ne voulait surtout pas que le petit peuple les gêne, les perturbe dans leur fête. Enfin voilà, c'est ça la réalité. Donc elle venait pour dire on a le droit de manifester, il faut que l'on continue. Moi, je crois que cette arrogance-là de Macron, je crois que c'est ce qui remet du carburant, finalement, dans les mobilisations. Et bien voilà, et bien, je crois qu'il n'en a pas fini avec la colère populaire Macron.
Les risques encourus étaient connus de tous. Les moyens étaient annoncés. Ce sont des moyens importants.
Sur le fond, est-ce que le président a vraiment tort à la lumière de ce que disent les policiers sur place ?
Il a tort, il est responsable, c'est lui effectivement qui a pris le risque, ce sont les forces de l'ordre qui ont pris le risque de ce genre de drame. Voilà, parce que c'est ça la réalité. Je ne suis pas du tout d'accord avec votre interprétation des faits, vous nous expliquez que c'est une bousculade, comme ça, etc. Il y a eu une charge, ou pas de charge, hein, ils étaient une dizaine, une vingtaine, y compris qu'ils s'adressaient, ils discutaient avec les forces de l'ordre, c'était tout à fait pacifique, c'était tout à fait...
Oui. Et apparemment, il y a eu une sommation. Ils ont été avertis que les forces de l'ordre allaient intervenir.
Mais il y a aussi d'autres façons d'évacuer des lieux. Et là, effectivement, vous savez, cette journée de samedi, elle était placée sous haute tension parce qu'il y avait eu toute une psychose que le gouvernement avait fait monter, y compris avec sa déclaration sur Sentinelle, etc., où il avait expliqué impunité zéro, il fallait y aller, etc., etc. Et je crois que c'est tout ce climat aussi qui fait que ce genre de situation, alors qu'ils sont...
On a plein de manifestations en France depuis des mois, des semaines et des semaines qui se passent très bien. Les seules qui ne se passent pas bien, ce sont les manifestations, et d'autant plus depuis quelques semaines, des gilets jaunes. Donc, quelque part, attention, on sait très bien la violence. Et moi, juste une petite chose.
Cette manifestation, c'est mal passé du fait des forces de l'ordre, là, en l'occurrence.
Arrêtez d'accuser les forces de l'ordre. Arrêtez d'accuser les forces de l'ordre.
Si ça s'est mal passé, c'est parce qu'il y a eu une mauvaise gestion, manifestement.
Le 17 novembre, Madame Arthaud.
C'est une situation assez simple.
Madame Arthaud, le 17 novembre. Le 17 novembre, moi, je suis député de Paris. Le 17 novembre, je suis allé discuter la première manifestation des gilets jaunes devant la Madeleine. Je suis allé essayer de discuter avec les gilets jaunes. La première fois que ça arrive, je suis député local, je vais essayer de discuter. Au bout de 30 secondes, les forces de l'ordre ont été obligées de m'exfiltrer tellement la violence était incluse. Moi, je voudrais juste dire une chose. Les revendications, elles sont légitimes d'une partie des gilets jaunes et on les a entendues, on doit y répondre. Par contre, la violence est illégitime et elle doit être condamnée. Moi, je regrette que vous ne
le
condamniez pas.
Le problème, c'est que vous laissez pourrir la situation depuis 19 semaines. C'est ça le problème.
Est-ce que ça vous étonne, ce sondage ? Comment se fait-il que l'opposition ne profite pas plus, si je puis dire, de la crise des gilets jaunes ?
Non, mais moi, quand j'entends, par exemple, Marlène Schiappa dire que cette minorité bruyante, je pense qu'elle est complètement déconnectée. Hein, parce que la réalité, c'est que cette minorité bruyante dont elle parle, c'était les gilets jaunes. Hein. Je décrypte, hein, mais c'est ça. En réalité, a mis sur la table des revendications, mais qui sont générales dans les classes populaires, hein, qui sont... voilà, qui sont celles des retraités, qui sont celles de ceux qui sont qui n'arrivent pas à vivre avec le SMIC, qui ont droit qu'à des heures de quelques heures de boulot, etc. Donc et c'est d'ailleurs ce sont eux qui manifestent et qui ont la sympathie. Qui ont la sympathie de l'opinion. Alors après, dans les sondages, avec combien de participation, avec combien d'abstention, tous ces sondages. Alors vous voyez, il faut relativiser tout ça. Moi, ce que je sais, c'est qu'effectivement, ce gouvernement, il mène une politique anti-ouvrière, que tout son discours sur l'Europe, qui sera porté par Nathalie Loiseau, ça sera de nous dire qu'il faut faire confiance dans cette construction, parce que c'est le progrès, parce que c'est l'ouverture, parce que ça va relancer l'économie, etc. Tout ça, c'est du bidon. C'est du bidon de A jusqu'à Z, parce qu'en réalité, l'Union européenne, elle n'a rien fait de progressiste, ni pour les travailleurs. Hein, alors, il parle du SMIC, hein, mais ce SMIC européen, on l'attend impatiemment, et pas aligné sur le plus bas, aligné sur le plus haut. C'est ça qui serait véritablement un projet. Mais il ne viendra pas de l'Union européenne, pas de cette Union européenne-là, avec tous ces dirigeants qui n'ont qu'une idée en tête, c'est d'écraser les salaires, c'est d'accepter toutes ces suppressions d'emplois, ces fermetures d'usines, parce qu'ils ne sont pas du côté des
mais
travailleurs.
Mais pourquoi ce discours-là ne porte pas plus ? On devrait voir, si l'on vous suit dans votre logique, La République en marche, être beaucoup plus bas, semaine après semaine, dans les sondages.
Mais moi, je
vois la colère qui s'exprime dans la rue.
Vous savez, les élections, c'est justement... Ce sont ceux qui ne s'expriment plus dans les élections qu'on voit aujourd'hui dans la rue. Voilà. Et moi, je pense qu'effectivement, ceux qui feront changer la situation, ceux qui feront un électrochoc et arriveront à souder eh bien, tous ceux qui subissent aujourd'hui et qui doivent se battre pour changer leur sort, c'est d'eux que les choses partiront. Ce n'est pas effectivement de ce gouvernement, de ceux qui sont en place, ceux qui gouvernent aujourd'hui.
L'Europe est la solution à beaucoup de questions qu'on ne peut plus régler en national. Il est temps de le faire. Et ces élections-là nous donnent l'occasion d'affirmer l'Europe une fois pour toutes et de profiter justement de la sortie de l'Angleterre qui est programmée pour régler des problèmes que l'Angleterre bloquait jusqu'à présent. Tous les grands projets européens étaient bloqués. Et bien maintenant, il faut qu'il y ait un sursaut et on va essayer de redémarrer quelque chose.
À chaque européenne, il y en a toujours pour ramener sur la table l'Europe sociale et pour agiter. Hein, regardez, l'Europe, on va la faire sociale, etc. Ça fait 60 ans qu'elle est construite, cette Europe. Elle n'a été construite que pour le business, que pour les capitalistes.
Ça,
et
c'est pas vrai
les capitalistes.
Du tout.
Mais
ça...
bien sûr que si.
Mais non, mais non, mais non.
Vous êtes capable de discuter pendant des heures et des heures sur tel
alors,
ou tel
le
marché,
programme Erasmus,
etc.
C'est que pour les capitalistes.
Moi, je vais faire avancer le droit des femmes pour que le droit à l'avortement soit généralisé à l'échelle de l'Europe. Et même pas ça.
Moi, sur l'Europe sociale, moi, je suis d'accord avec vous quand vous dites que c'est une Europe qui a été créée sur le business, sur une partie du business. D'abord, sur la paix. Construire la paix, déjà. La première chose, c'est de construire la paix. Bah, c'était la première chose. On n'a jamais eu une période de paix depuis plus de 2000 ans en Europe, comme nous sommes en train de dire. Il faut s'en réjouir tout de même. Au-delà de ça, vous avez raison. On a d'abord créé l'euro. On
a d'abord créé l'euro. Avant de créer,
vous avez raison, un marché social. Mais là-dessus, moi, je suis assez d'accord avec vous. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Il faut un SMIC au niveau européen. Et vous avez raison. C'est notre intérêt qu'il soit le plus haut possible. Le plus haut possible. Pourquoi ? Parce que ça permettra évidemment de créer un marché intérieur, d'avoir une bonne...
déjà 1800 euros en France, et puis on discutera d'un SMIC
madame,
digne à l'échelle européenne.
Moi, je pense qu'il faut, il faut une augmentation. Nous avons déjà commencé à le faire avec une vraie augmentation. Moi, je pense que c'est important, oui. D'abord, c'est
payé
ce qu'on a voté.
Payé par le patronat et pas payé par d'autres travailleurs et pas payé par des ouvriers,
ce que nous avons déjà fait.
Par les retraités.
C'est ce que nous avons déjà fait. La France pourrait jouer de son état stratège avec la SAFER, pourrait faire un certain nombre de choses.
Vous voulez pas de Chinois, quoi. Vous voulez pas des Chinois, quoi.
Nathalie Arthaud.
Enfin, le vignoble, c'est le patrimoine, monsieur, quand même. Excusez-moi. Je sais bien que la culture, pour vous ça n'est rien et la culture française n'existe pas.
Ils vont pas l'emmener en Chine.
Non, mais c'est des grands crus qui passent.
Des
grands crus qui passent sous contrôle étranger. C'est quand même hallucinant.
Moi, ce qui me frappe dans cette discussion, c'est que vous vous opposez politiquement. Il y a La République En Marche, la majorité gouvernementale d'un côté, le Rassemblement National de l'autre. Mais en réalité, vous êtes d'accord pour défendre cette organisation économique qui, de mon point de vue, est une aberration. C'est-à-dire, vous êtes d'accord pour défendre le capitalisme, la concurrence, etc. Parce que c'est ça le problème en réalité. Vous êtes, quand on discute de tous ces problèmes, regardez, on parle donc de la concurrence, de menace, de se protéger, de rapport de force. C'est le cœur même du capitalisme. c'est la concurrence, c'est-à-dire c'est la guerre. C'est la guerre, effectivement, des grandes entreprises les unes contre les autres. C'est la guerre, donc, des États les uns contre les autres. C'est la guerre du donneur d'ordre et du sous-traitant. C'est la guerre entre les agriculteurs, la distribution. C'est y compris la guerre entre les chauffeurs de taxi et les chauffeurs Uber. C'est le cœur même de cette société capitaliste.
Donc, est-ce qu'on peut peser plus tout seul ?
Ce que je veux dire par là, c'est que, précisément, c'est ça qu'il faut remettre en cause. Parce que on ne peut concevoir, dans cette économie qui est basée effectivement sur la concurrence, le profit, la propriété privée de quelques-uns, hein, parce que tous ces grands groupes, ils appartiennent à quelques-uns. Hein, c'est, si on accepte cette société-là, eh bien, on accepte qu'au bout du bout, le salarié, le travailleur qui est en bout de chaîne, eh bien, lui, eh bien, il supporte tout ça, tout ce poids de cette compétitivité, qui laisse tomber ses intérêts, son salaire, son boulot. Et voilà, on est écrasé par ce rouleau compresseur.
National combat la mondialisation
donc,
également.
La réalité, c'est que voilà, vous êtes tous les défenseurs de ce système, mais vous savez, des ennemis, il y en aura toujours. Si ce n'est pas les Chinois, ce sera les Américains. Si ce n'est pas les Américains, ce sera les Allemands. On ne s'en sortira pas. Ben, moi, je suis désolée, mais j'ai une autre vision de l'organisation économique et des relations entre les femmes et les hommes. Que, voilà, je pense qu'on n'est pas obligé, on n'est pas, condamné à ces relations de domination, d'exploitation, de guerre économique.
De voilà. Précarité d'argent des Français, je voudrais qu'on aborde quand même la question des retraites, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Jean-Paul Delevoye, le monsieur retraite du gouvernement, répète qu'il n'est pas question de toucher à l'âge minimum de départ à la retraite, qui restera à 62 ans. Il faut le rappeler que plus de 6 Français sur 10 sont hostiles à un éventuel report de l'âge de départ à la retraite.
Je crois qu'il faut redonner, par ce nouveau système, une lisibilité et qu'on puisse tout au long de notre carrière savoir où nous en sommes et de pouvoir passer d'un système à un autre, c'est-à-dire d'être fonctionnaire,
de
pouvoir passer avec une grande lisibilité. C'est ça l'enjeu.
Mais ce ne sera pas plus juste. Il n'y a pas de justice dans cette société. Ceux qui sont condamnés au chômage pendant des années, ils vont avoir peanuts à la retraite. Ceux qui sont condamnés à des salaires de misère, ils ont une retraite de misère. Il n'y a pas de justice. Et vous dites qu'ils auront le choix, mais ils auront le choix de rien du tout. Ils auront le choix de rien du tout parce que, effectivement, même arrivé à 62, 63, 64 ans, et ben de toute façon, ils auront une retraite qui correspondra au seuil de pauvreté. Donc voilà. Alors, moi, je trouve ça. Vous savez, l'âge de départ à la retraite réel, il est déjà au-dessus de 62 ans. Parce que précisément, autour de 62,7 ans,
plus tard, en effet.
Plus tard, et tous, parce qu'en réalité, avec ce recul.
Il y a des gens qui sont contents de partir plus tard. Hein,
mais bien sûr, c'est sûr, quand vous choisissez votre boulot,
mais bien
que vous êtes
mais
journaliste,
vous avez raison, mais vous
êtes
raison.
Chirurgien, que vous vous épanouissez dans votre boulot.
Mais pas que
moi,
ça.
Je peux vous dire que les gens qui comptent les mois, les jours qui les séparent de leur retraite, c'est la majorité dans ce pays, parce que le travail, c'est devenu une prison pour la majorité des gens aujourd'hui. Parce que c'est des cadences infernales, parce que c'est de plus en plus dur le boulot, et pas que le boulot sur chaîne de montage.
C'est une vraie différence.
On aura le temps de revenir.
Non, je ne suis pas d'accord.